Bien, merci, cher ami, de cette introduction. Merci à vous d'être là pour un sujet abscond, pénible et laborieux. La réforme du système monétaire international, qui est une espèce de serpent de mer, qui traîne depuis plusieurs années et qui reparaît de temps en temps. Je vous propose d'en parler parce que, à mon humble avis, l'origine du cataclysme que nous sommes en train de vivre tous les jours est d'origine monétaire, et que cette origine monétaire est cachée par les présentateurs, les politiques, les économistes qui ont opinion sur rue, les médias, etc. De telle sorte que aucune solution ne peut être trouvée à la crise tant qu'on n'aura pas reconnu l'origine de cette crise qui, encore une fois, est monétaire. Et donc mon propos va être de montrer à la fois en quoi cette crise est monétaire et ensuite quelle solution on pourrait trouver, quelle solution authentique on pourrait trouver pour sortir de ce foutoir. Alors, d'abord, je veux rappeler une loi fondamentale de l'économie qui est à la portée de tout le monde, ce que j'appellerais la loi du moindre effort, et qui explique beaucoup de choses en économie, et notamment en économie monétaire, en monnaie. Qu'est-ce que c'est la loi du moindre effort? C'est tout simplement qu'on peut... Pourquoi se donner du mal quand on peut aboutir au même résultat en économisant ses forces ou un résultat supérieur avec les mêmes forces. Autrement dit, on cherche à diminuer son effort pour avoir le même résultat, ou bien à augmenter son résultat avec le même effort. Ce que tout le monde appelle la loi du moindre effort. Alors je vais diviser, et vous allez voir au cours de cet exposé une explication de cette loi élémentaire, je vais diviser mon exposé en deux grandes parties. Ça va être très carré, il y aura deux grandes parties, et pour chaque partie, deux sous-parties. Donc on est vraiment dans un exercice très académique. Donc deux grandes parties, d'une part, parce qu'il faut s'interroger aussi sur qu'est la monnaie, d'une part donc la monnaie marchandise, et d'autre part, deuxième partie, la monnaie papier. Évidemment, on essaiera de comprendre pourquoi on est passé de la monnaie marchandise à la monnaie papier. Donc, première partie, la monnaie marchandise, ça paraît quelque chose de tout à fait exotique à une époque où on parle de monnaie électronique, encore que l'électron est de la matière, de monnaie dématérialisée. Mais tout de même, quand on traduit l'adage anglais « time is money », on ne dit pas « le temps, c'est de la monnaie », on dit « le temps ». C'est de l'argent. L'argent, dans notre langage français, évidemment c'est propre à la France, l'argent est beaucoup plus réel, beaucoup plus pèse davantage qu'il a du poids que la monnaie. La monnaie, en français, n'a pas la même pesanteur. Quand on vous demande « est-ce que vous avez de la monnaie ?», on sous-entend, est-ce que vous avez de la menu monnaie pour que vous rende la monnaie? Quand on vous demande, est-ce que vous avez de l'argent sur vous pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, on entend bien qu'il vous faut de l'argent. On gagne de l'argent en travaillant, on ne gagne pas de la monnaie, etc. Donc il y a une trace mnésique en quelque sorte dans notre vocabulaire, pourtant une époque encore une fois où la monnaie est totalement dématérialisée, une trace de l'origine marchande, de l'origine marchandise de la monnaie. Et c'est cette origine que je vais essayer d'élucider, d'identifier. De même d'ailleurs, quand on parle, est-ce que vous voulez qu'on vous rende, est-ce que vous voulez payer en espèces, le paradoxe suprême que quand on vous demande est-ce que vous voulez payer en espèces ou en chèque, en carte bancaire, dans l'espèce, sont compris, cette antithèse complète de l'espèce qui est le billet de banque. Donc vous voyez à quel point nous sommes prisonniers de ces mots. Alors, dans cette monnaie marchandise, dans ces développements sur la monnaie et marchandise, je vais d'abord montrer comment ça marche, comment ça a marché pendant des siècles, voire des millénaires, et deuxièmement, comment l'État s'est inscrit dans ce règne de la monnaie marchandise. Alors, tout le monde sait que la monnaie permet de passer de l'échange direct à l'échange indirect. Excusez-moi pour les économistes qui sont dans cette salle de rappeler ces évidences. L'échange direct, c'est le troc bilatéral, et l'échange indirect passe par la monnaie. Ici, là, nous avons une première application de la loi du moindre effort, c'est que c'est une simplification extraordinaire de pouvoir utiliser un instrument monétaire, un instrument qui permet l'échange indirect. Évidemment, quand il n'y a que deux objets, on n'a pas besoin d'instrument monétaire, puisqu'on peut comprendre l'échange avec un seul prix de l'échange de ces deux objets, mais dès qu'on passe à trois objets, les objets étant troqués deux à deux, il faudrait afficher trois prix, La monnaie permet simplement d'afficher trois prix alors qu'il en faudrait six. Avec dix objets au lieu des dix prix que nous autorise l'usage de la monnaie, il nous faudrait calculer 45 prix pour les échanges objets contre objets. Pour 100 objets au lieu de 100 prix que permet la monnaie, il faudrait 4250 prix pour les échanges bilatéraux. Donc, on voit bien que la monnaie permet une multiplication formidable, une dynamique de l'échange qui ne serait pas possible si on était resté au troc bilatéral. Ce qui fait dire que la monnaie remonte véritablement à l'origine de l'humanité. Il n'y a pas une époque où on avait le troc bilatéral et petit à petit on est passé à l'échange indirect. Bon, il n'y a pas de... Encore que on a des preuves aujourd'hui archéologiques que l'utilisation de la matière métallique est beaucoup plus ancienne qu'on le croyait et remonte vraiment à l'origine de l'humanité. Alors, quels sont les biens qui vont être choisis spontanément par le jeu de l'échange pour servir d'instrument d'échange, justement? Eh bien, il faut que ces biens aient certaines qualités. Et la qualité qui va apparaître bien évidemment, c'est les biens ont différentes possibilités, ont différentes facilités d'échange, et par conséquent, ce qui va émerger, ce sont des biens qui sont faciles, qui facilitent l'échange. Alors, l'un des premiers biens qui va apparaître, c'est le bétail, parce que le bétail se transporte de lui-même, en quelque sorte. Donc, comme il s'agit de véhiculer de la valeur, le bétail va être en effet un des premiers instruments d'échange. À tel point que le capital, l'origine étymologique de capital, c'est le cheptel, ce qui donne bien l'importance de cette phase dans la recherche d'un instrument d'échange. Bon, mais il y a bien sûr d'autres considérations qui vont permettre de sélectionner les biens à échange. Il faut que le bien concentre beaucoup de valeur sur un faible volume. Il faut qu'il permette d'être transporté avec une certaine sécurité. On voit bien qu'une pièce d'or est plus facile, ou un morceau d'or est plus facile à transporter, à cacher que d'autres biens. Il faut encore que ce bien soit divisible, sans perdre sa valeur. Je parlais tout à l'heure du bétail. Un bétail que l'on coupe en petits morceaux, évidemment, n'a plus la même valeur que quand il est encore sur pied. Il faut encore que ce bien conserve sa valeur au cours d'un certain temps, le plus longtemps possible, évidemment. Et donc, toutes ces qualités finissent par faire émerger, sans qu'aucune autorité étatique de quelque soit, puisque de toute façon, on est dans un monde où il n'y a pas d'État, font émerger, vont faire émerger des métaux précieux, et parmi ces métaux précieux, l'or et l'argent vont petit à petit s'imposer comme monnaie d'échange. Alors l'or, pour ne parler que de l'or, parce qu'évidemment on pourrait aussi parler de l'argent, l'or a des qualités incroyables qu'il faut rappeler ici. Un gramme d'or peut être laminé en une feuille de 0,40 m². Il peut être transformé en une pellicule 1000 fois plus mince qu'une feuille de papier. Il est très ductile, c'est-à-dire qu'il peut être, ce même gramme d'or peut être allongé sur une longueur de 3 km. Surtout, il est inaltérable, ce qui fait que tout l'or qui a été extrait des entrailles de la Terre depuis l'origine de l'humanité, pratiquement, est toujours là. Il y a certains éléments qui sont au fond des mers, évidemment, mais que l'on retrouve. Autrement dit, dans ce monde d'incertitude dans lequel nous vivons, et l'incertitude est absolument irréductible, nous ne pouvons pas ne pas vivre avec cette incertitude. L'or est l'élément le moins incertain, le moins instable, pour ne pas dire le plus stable. On a calculé que tout l'or qui a été extrait depuis l'origine de l'humanité tiendrait dans 25 mètres cubes, c'est-à-dire le tiers du volume de l'Arc de Triomphe, et pèse à peu près 130 000 tonnes. C'est-à-dire que, donc, l'argument qu'on se dit, mais on va dépendre de la production d'or, cet étain d'or ne pourrait pas être commode puisqu'on va dépendre de la production d'or de telle ou telle mine ou tel ou tel pays, mais cette production d'or est évidemment très marginale par rapport à ce stock accumulé par les hommes depuis l'origine de l'humanité. Alors, le grand mérite de cette monnaie fondée sur le métal, c'est que il y a une sorte d'autorégulation qui permet d'ajuster facilement les besoins de la monnaie, les besoins monétaires aux besoins de l'économie. Supposons par exemple qu'il y ait une augmentation de la production de blé par rapport, soit par extension des surfaces cultivées, soit par augmentation de la productivité. Eh bien, et que en face, il n'y ait pas d'augmentation de la production d'or. Si au départ, on a un quintal de blé qui vaut un gramme d'or, on peut imaginer qu'avec l'augmentation de la production de blé, le quintal va devoir donc diminuer et ne vaudra plus que 0,5 gramme d'or. Et par conséquent, du même coup, le prix de l'or en quintal va augmenter, un gramme d'or va valoir 2 quintaux. Autrement dit, on voit bien que les producteurs vont avoir avantage à produire de l'or, tandis que les producteurs de blé vont avoir avantage à diminuer les produits de l'or. Autrement dit, il va y avoir un ajustement réciproque entre ce besoin d'or pour faciliter les échanges et le monde réel. On peut faire la démonstration évidemment en sens inverse. S'il y a une augmentation de la production d'or avec une production de blé, par exemple, constante, on va avoir une inflation, une augmentation du prix de l'or, et par conséquent, le même ajustement en sens inverse va se produire. Je donne cet exemple un peu schématique pour montrer que dans ce monde, encore une fois, a régi l'économie pendant des millénaires, la notion même de masse monétaire ou la notion même de politique monétaire n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, une masse monétaire qui devrait être fixée par rapport aux besoins de l'économie. Il y a ajustement au jour par jour des besoins monétaires aux besoins de l'économie. D'ailleurs, l'expression même de politique monétaire, il faut le savoir, ne date que des années 20. Jusqu'aux années 20, qui sont situées évidemment après cette grande catastrophe qui est la guerre 14, dont nous allons parler, jusqu'aux années 20, la politique monétaire n'est même pas concevable. Il n'y a pas cette politique monétaire dont on parle tous les jours dans les radios et dans les télés, à propos de la Banque Centrale Européenne, à propos du dollar. Cette politique monétaire mais pas concevable dans un monde de monnaie marchande. Alors les choses ne sont évidemment pas, vous ne pouvez pas rester ainsi dans ce monde un peu paradisiaque que je vous décris, qui est un monde quand même d'une très grande pauvreté. Et évidemment, l'État, qui peut être petit, je ne vais pas vous faire un historique de l'État, évidemment, mais l'État, à partir du moment où il est apparu dans l'organisation sociale, ne pouvait pas ne pas s'intéresser à la fabrication de la monnaie. Donc, le deuxième partie de ma première partie, l'État monnayeur, comment l'État monnayeur a-t-il pu justifier son insertion dans le jeu monétaire? Eh bien, là aussi, c'est la loi du moindre effort qui vient jouer. Parce que, évidemment, il est coûteux de vérifier à chaque fois la valeur de tel lingot, la valeur de telle pièce fabriquée par des orfèvres privés. Et donc, la justification de l'État, ça va être de simplifier, d'authentifier la frappe de la monnaie. Je vous donne un exemple parmi d'autres, comme quoi le coût de la vérification pouvait être très élevé. Quand il a fallu vérifier les 1 200 000 écus versés par François Ier pour récupérer ses fils prisonniers qui étaient en otage aux mains de Charles Quint, que Charles Quint avait pris en otage, d'ailleurs à la place de leur père, vous savez, il a fallu 4 mois pour vérifier une à une ces pièces, ces écus, donc donnés par le roi de France à l'empereur, et l'empereur exigea 40 000 écus, soit de plus, en plus de la rançon, pour les irrégularités qu'il avait été constaté sur certaines pièces qui lui avaient été livrées. Donc on voit bien l'argument de l'État. Et cet argument, on le retrouve à travers les siècles. Aujourd'hui encore, des économistes vous disent que justement la monnaie est un service public. Et parce que c'est un service rendu public, et par conséquent, c'est un service public qui doit être mis dans les mains de l'État, évidemment. Je vais citer un de ces économistes les plus fameux, la monnaie service public, mon collègue Aglietta, qui est un bon économiste, d'ailleurs, un des économistes les plus savants de notre époque. Et bien, pour Aglietta, la monnaie est un bien collectif ou un bien service public qui se justifie justement par ce service rendu par l'État. Et l'un des responsables de cette erreur, c'est Aristote lui-même, hélas. Notre grand Aristote, nous aimons tant par ailleurs. Aristote dit que l'origine de la monnaie, se dit en grec nomisma. Nomisma, la racine de nomisma, c'est nomos, c'est donc la loi. Et pour Aristote, la monnaie s'apparente à la loi, s'apparente donc au domaine public. Or, en latin du moins, l'étymologie de la monnaie, mais on peut remonter au grec, l'origine étymologique de monnaie, c'est pas nomisma, comme vous pouvez le supposer en m'écoutant, mais c'est moneta. Moneta, c'est-à-dire elle avait un prénom, cette moneta, c'est une déesse, elle avait un prénom, elle s'appelait Junon. Junon, la déesse, pourquoi elle s'appelait moneta? Parce qu'elle avait pour fonction d'avertir, ce qui est une assez belle illustration de ce qu'est la monnaie. Et elle avait un temple à Rome, Junon Moneta avait un temple qui était construit sur le Capitole à côté du temple de Jupiter et contenait les bureaux de la monnaie où était fabriqué l'autel de la monnaie à Rome, c'était le temple dédié à Junon Moneta. Donc là, on est plus près de la monnaie marchandise, évidemment, que de la monnaie bien public. Il y avait au Moyen-Âge, on trouve le même argument, d'ailleurs, il faut se rendre compte qu'au Moyen-Âge, les poids et mesures variaient de ville en ville, d'ailleurs c'est dans les villes que se faisait le commerce, et que ces différences compliquant le calcul des prix étaient une entrave considérable au développement des échanges. Évidemment, il y avait des coûts de transaction, des coûts de vérification tout à fait considérables. Et là encore, il y avait une demande d'authentification et les marchands étaient les premiers à demander au roi de s'occuper de cette affaire. Le roi de France, pour ne parler que de la France, était en quelque sorte au service des marchands pour authentifier les monnaies. Mais l'intervention de l'État, c'est... Je chevauche les siècles, je vais revenir à la Grèce. Parce que chez les Mésopotamiens, il n'y a pas de frappe de monnaie. L'invention, la première monnaie qu'on connaît, c'est le fameux électrum frappé en Lydie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Électrum, qui est un alliage d'or et d'argent, par le roi Crésus, qui mérite bien son nom, parce que vous allez voir comment il s'est enrichi. Il y a de l'électrum naturel qui est un mélange d'or et d'argent. 70%. La teneur en or dans l'électrum naturel est de 70%. Donc 70% or, 30% argent. Évidemment, le roi Crésus a mis en circulation un électrum qu'il fabriquait lui-même, où la teneur en or était plus faible. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Donc dès la première apparition de l'État monétaire, on voit tout de suite une fraude, tout de suite un faux monnayeur. Et ce n'était qu'un début modeste, évidemment. L'État est évidemment intéressé à s'accaparer le monopole de la frappe de la monnaie, parce que ça lui permet deux choses. La première chose, c'est de prélever, évidemment, un droit fiscal qu'on appelle le seigneuriat, terme un peu bizarre, qui vient s'ajouter au droit de brassage ou au droit de frappe qui est le coût de la fabrication de la pierre, qui est tout simplement le prélèvement que le seigneur, évidemment au départ c'était plusieurs seigneurs qui avaient le droit de battre monnaie, petit à petit une concentration dans les mains du roi, donc le droit de seigneuriage, évidemment à partir du moment où il n'y a plus de concurrence, où l'État, le prince accapare le pouvoir de frapper les monnaies, évidemment il peut imposer plus fortement le droit de seigneuriage, l'impôt de seigneurial est plus élevé. Ça, c'est le premier intérêt de l'État à monnayer, et il ne s'en est pas privé. Et le deuxième moyen le plus connu, c'est évidemment la manipulation monétaire. Et là, l'Ancien Régime ne s'en est pas privé, c'est-à-dire qu'au fond, ça consiste à mettre en circulation des pièces qui ont la même valeur faciale, avec un contenu métallique de plus en plus dégradé. Alors, il y a évidemment une limite à cette manipulation. C'est la grande différence entre la manipulation monétaire sous l'Ancien Régime et la manipulation monétaire aujourd'hui, parce que malgré tout, il fallait tout de même se servir de matière. On ne pouvait pas utiliser la planche à billets, on ne pouvait pas fabriquer de la monnaie ex nihilo, comme cela viendra dans une deuxième phase. Et parce que il y avait, si le monnayage consistait à truquer les monnaies, évidemment, le risque était que les gens n'apportent plus leur or ou leur argent à l'hôtel des monnaies et se le gardent ou le fassent partir à l'étranger. Finalement, même avec, c'est là qu'il faut voir que même avec l'intervention de cet État monnayeur, il reste une certaine autorégulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la politique monétaire possible au sens moderne du terme, car si l'État authentifie les pièces de monnaie, n'empêche que la frappe est libre. Et par conséquent, la création monétaire reste décentralisée. Et elle continue à fonctionner sur le mode que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire une autorégulation un peu déviée par le rôle de l'État, mais n'empêche que la gestion donc de cette masse monétaire reste décentralisée au niveau de chaque citoyen et épouse au plus près, jour par jour, les besoins monétaires des familles. Même le roi est soumis à cette loi du marché lorsque, pour boucher un trou dans son budget, il est obligé de faire fondre sa vaisselle d'or ou d'argent. Autrement dit, certes, il y a faux monnayage de temps à autre de la part du prince, mais il se heurte aux limites que nous venons de montrer. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'essayer de capter à son profit une partie des monnaies métalliques qui circulent sur son territoire, mais, encore une fois, la quantité d'or ou d'argent qui circulent sous forme de monnaie, de lingots, de bijoux, de vaisselle, etc., le roi, le prince, ne peut ni l'augmenter, ni la diminuer. Pour l'essentiel, la pulsation monétaire dans ce régime reste, échappe au contrôle de l'État et reste soumise aux besoins de l'économie. Alors j'en viens à ma deuxième partie, c'est évidemment, vous l'attendez, la monnaie papier. Et là encore, on retrouve la loi du moindre effort, qui est normalement le fil conducteur de toute cette affaire. En effet, évidemment, les pièces de monnaie sont plus commodes à transporter que les moyens monétaires qui ont précédé, mais il n'en reste que ça reste coûteux, ça reste lourd, ça reste dangereux, et par conséquent, on va trouver un système pour faire circuler ces matières sans faire circuler la matière. C'est-à-dire, c'est le billet de banque qui permet, à des coûts de transport évidemment beaucoup plus faibles, qui sont comme des reconnaissants, des certificats d'or qui vont permettre de faire circuler cet or, cet argent, ou ce fonds, à des coûts beaucoup moindres et dans des conditions de sécurité très supérieures. Alors on peut s'attendre, la division du travail étant, que des agents vont se spécialiser dans la fabrication de ces billets, on veut les appeler des banques, encore que des orfèvres ont joué ce rôle aussi, et la banque va émettre des papiers, ouvrir des comptes qui sont des manières de faire circuler cet or, cet argent, de compte à compte, ou de client à client, sans pour autant que la marchandise circule. C'est là qu'on vérifie ce paradoxe qu'une monnaie, papier, qui est aussi bonne que l'or, of good of gold, comme on dirait en anglais, permet, c'est le paradoxe, d'économiser l'or en le faisant quasiment disparaître de la circulation. Les adversaires de l'État noir, nous allons les retrouver tout à l'heure évidemment, trouvent absurde de creuser des trous dans la terre pour trouver de l'or, pour l'enfouir dans d'autres trous creusés sous les banques. Ça paraît une opération totalement idiote. Eh bien, c'est une mauvaise argumentation, car c'est lorsque la monnaie n'est pas aussi bonne que l'or dans l'esprit de ceux qui la détiennent, que l'or revient dans la circulation et qu'il est nécessaire de creuser des mines pour satisfaire à ce besoin. En résumé, il y a plus d'or en circulation dans un système monétaire sans étalon or que dans un système d'étalon or. L'étalon sans or est plus coûteux en or que l'or monétaire ou l'étalon or. Donc arguer, c'est un point important parce qu'on va le retrouver dans toute la discussion sur la restauration éventuelle d'une monnaie or, arguer de l'insuffisance de la quantité d'or disponible sur la surface de la planète, comme on le fait à chaque évocation de l'or monétaire ou l'étalon or, et démontre une méconnaissance complète du fonctionnement d'un système monétaire d'étalon or ou d'or monétaire qui permet justement d'économiser l'or. Alors ces banques qui vont émettre des billets vont évidemment être soumises à la tentation que leur offre une autre loi, la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'ils vont faire le pari que les détenteurs de ces comptes ou les porteurs de ces billets ne vont pas tous se précipiter en même temps au guichet de la banque pour demander la conversion de leurs billets en or. Par conséquent, la tentation va être d'émettre plus de billets ou de développer des comptes courants qui ne correspondent pas à la réserve d'or de la banque en question. Par conséquent, ces billets ou ces comptes courants qui vont se développer vont alimenter eux-mêmes les comptes de la banque, ce qu'on appelle en anglais le fameux adage « loan make deposits », les crédits font les dépôts, et ainsi le bilan de la banque va se développer de telle sorte que il y aura une dissymétrie croissante entre l'émission de billets et les réserves en or de cette banque. Or, la loi des grands nombres n'est pas pertinente dans cette affaire. Jacques Rueff, qui est certainement le plus grand économiste français du XXe siècle, avait raconté une histoire à ce sujet qui était intéressante. Il la tenait d'un banquier belge qui, sortant d'une assemblée d'actionnaires houleuses, avait exprimé sa hargne en un adage lapidaire: quand ça va bien, ce sont des moutons. Quand ça va mal, j'ai bien fait ça. Quand ça va bien, ce sont des moutons. Et quand ça va mal, ce sont des lions. Il en va de même des clients des banques. Quand ça va bien, ce sont des moutons. Ils suivent le troupeau et tout ça. Mais quand ça va mal, ils se battent comme des lions pour récupérer leurs dépôts. Et on a plusieurs exemples. Encore récemment en Angleterre, de ruer vers les guichets de telle ou telle banque pour ces malheureux clients qui veulent récupérer leur argent. Et il se pourrait bien qu'on observe ce même phénomène en France si une de ces grandes banques faisait faillite en dépit de la garantie des dépôts qui est normalement accordée à ses clients. Donc le problème de l'émission des billets par ces banques pose évidemment fait courir des risques considérables à l'ensemble du système. Et on arrive à la deuxième phase donc de ces considérations sur le billet de banque. Dans une première phase, donc, le billet est convertible, et dans une deuxième phase, on va inventer le billet non convertible. Et c'est ici qu'intervient la Banque centrale. Alors, la Banque centrale, on est tellement habitué à l'existence des banques centrales qu'on a perdu de vue le fait très simple, pourtant, que ces banques centrales n'ont pas toujours existé. Elles sont relativement récentes dans l'histoire de la monnaie. En France, elle remonte à Napoléon. En Angleterre, elle remonte à 1694. Aux États-Unis, pour situer les trois grandes ans des États-Unis, elle remonte à 1913. Donc tout ça, ce sont des créations relativement récentes. Pour ce qui concerne la Banque de France ou la Banque d'Angleterre, ce sont des origines étatiques, c'est-à-dire que la Banque d'Angleterre comme la Banque de France ont répondu à des besoins de financement de l'État et d'un État en guerre. Pas besoin de faire un dessin pour Napoléon. Et ça va plus loin, c'est-à-dire que cette vénérable Banque de France qui paraît si débonnaire et si bourgeois, a des origines frauduleuses, a des origines, c'est un véritable gang. Napoléon, le premier consul et ses amis, et qui détenaient le capital de cette Banque de France et qui l'ont imposé par la force sur le marché bancaire parisien. C'est un véritable coup de force qui a nécessité véritablement l'utilisation des armes pour détruire les concurrents. C'est un coup de force physique, véritablement, mais c'est un coup de force aussi symbolique, qui là, il faut reconnaître, montre le génie de Bonaparte. C'est que depuis la faillite de Lars, de la banque de Lars, au début du XVIIIe siècle, aucun institut, aucun établissement de crédit en France n'osait s'appeler banque. Le nom même de banque faisait peur, parce que les gens avaient été traumatisés par la faillite de la Banque Royale, qui s'était traduite par une quasi-émeute rue Quincampoix, au siège de cette banque, où les gens étaient morts étouffés pour essayer de récupérer leur dépôt. Donc, les noms, on avait trouvé des noms comme la caisse d'escompte ou le crédit, etc. On n'osait pas. Donc Napoléon Bonaparte utilise le terme de banque pour véritablement instaurer une nouvelle ère. Et le terme de banque, c'est tout ça est assez extraordinaire de point symbolique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, aucun autre établissement n'a osé aussi employer le terme de banque. On a la Société Générale, etc. On a le Crédit Lyonnais, on a d'autres appellations, mais le terme de banque, en quelque sorte, la Banque de France, non seulement le monopole, elle va avoir le privilège de l'émission de billets, mais en même temps, elle a le monopole du terme. Alors, il faut rappeler, parce que ça paraît tout à fait extraordinaire, il faut rappeler que les billets de la Banque de France, obtient le monopole de l'émission monétaire, mais ce billet, à l'origine, ça paraît invraisemblable aujourd'hui, n'a pas de cours légal. C'est-à-dire que ce billet de banque rentre en concurrence avec d'autres moyens de paiement sur le marché. Personne, aucun commerçant, si vous alliez chercher votre pain avec un billet de la Banque de France ou sur le marché, aucun marchand n'était obligé d'accepter. Et par conséquent, il y a une réflexion que j'aime bien de Edmund Burke dans ses réflexions sur la Révolution en France. Il avait parfaitement prévu la faillite de la Révolution française, évidemment, et il parle du papier monnaie anglais, de la livre. Et il écrit ceci, en l'opposant, bien sûr, à des monnaies à cours légal. Notre papier monnaie a de la valeur dans les transactions commerciales parce que précisément, il n'a pas de valeur légale. Il est puissant, ce papier monnaie est puissant à la bourse parce qu'il est sans force à Westminster Hall. Autrement dit, il est puissant à la bourse parce qu'il n'a pas Westminster Hall, évidemment, symbolise ici le pouvoir politique. Donc, le biais de la Banque d'Angleterre n'ayant pas de valeur légale, et d'autant plus, a d'autant plus de valeur. La valeur, si, en d'autres termes, une bonne monnaie n'a pas besoin de cours légal pour circuler. Si elle s'appuie sur un cours légal, c'est qu'elle est déjà une mauvaise monnaie. Mais il n'empêche que... Et d'ailleurs, pour en terminer avec ce cours légal, c'est tout à fait extraordinaire que le cours légal a été imposé par la Révolution française, puis par Napoléon. Il a été supprimé par la Restauration. Il a été restauré par la Seconde République, qui lui a ajouté un cours forcé, c'est-à-dire que, évidemment, il n'y avait plus de convertibilité du monnaie, du billet. Il était de nouveau supprimé en 1850 avec le son de l'Empire, et il faudra attendre la 1870, l'instauration de la Troisième République, pour retrouver le cours légal, et cette fois de manière définitive. Donc vous voyez que le cours légal est très, très lié à la République dans notre pays. Néanmoins, l'effet du privilège de la Banque de France ne se fait pas attendre, mais c'est là qu'on voit la ruse de toute cette affaire. C'est-à-dire que, avec ou sans cours légal, les gens avaient besoin de ce billet et donc apporter leur or à la Banque de France, leur or ou leur argent à la Banque de France, pour obtenir des billets. Et petit à petit, il y a eu centralisation dans les coffres de la Banque de France de l'or qui se trouvait dans les banques privées, et aussi dans les mains des particuliers. Et on retrouve ce phénomène dans les autres pays, on retrouve en Angleterre, on retrouve aux États-Unis. Il y a eu petit à petit une véritable centralisation de l'or aux mains de la Banque centrale. Et là, on retrouve un peu l'aventure qui est de ces bons bourgeois. Parce que le problème des gens qui ont de l'argent, ou de l'or, où ils sont fortunés, c'est que faire de cet argent? Comment conserver la valeur de cet argent? Et ce n'est pas simple. Il ne suffit pas de le garder chez soi, on risque de se faire voler. Les grands marchands au XVIIe siècle à Londres, les grands marchands de Londres, qui étaient déjà une puissance commerciale considérable, avaient confié leur fortune, leurs espèces, leurs trésors à la Tour de Londres, pensant que ces fortunes, ces trésors seraient bien gardés dans cette Tour de Londres que tout on peut voir en effet que c'est une véritable forteresse et qu'elle se trouvait à l'abri. Sauf que, évidemment, elle n'était pas à l'abri du roi. Et c'est le roi Charles VI, si mes souvenirs sont exacts, qui a fait un raid sur la Tour de Londres et qui a pillé littéralement, enfin du moins emprunté, entre guillemets, toutes ses fortunes pour financer sans doute une guerre ou un budget en déficit. Et du coup, les grands bourgeois, ou grands et moyens bourgeois de Londres, ont, pour ne pas de nouveau se faire spolier, ont confié leurs espèces, leur or, leur argent, aux orfèvres, qui étaient disséminés dans tout Londres. Et donc, comme ça, il était beaucoup plus difficile de faire des raids sur des centaines d'orfèvres exposés à Londres, que sur un seul lieu qui était la Tour de Londres. Et c'est ainsi qu'il y a eu décentralisation, non seulement des espèces, mais aussi de la création monétaire qui était faite par les orfèvres. Et il y a eu recentralisation, non, par le privilège donné à la Banque d'Angleterre comme à la Banque de France. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc on a une espèce de de ruse sous-jacente de cette affaire qui conduit à centraliser l'or aux mains d'une banque qui n'est autre qu'une banque de l'État. Alors, tout ça fonctionne relativement, d'une façon relativement correcte, jusqu'à la guerre de 1914, qui va rompre définitivement le lien entre la monnaie et l'or, tout simplement parce que dès que les hostilités se déclenchent, les gens se précipitent en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme en Suisse, se précipitent à la Banque centrale pour récupérer l'or, et évidemment, il y a la Banque de France, comme toutes les autres banques, ferme la fenêtre d'or, le guichet d'or, et l'or reste entre les mains de ses autorités. Et il ne sera jamais redistribué. Et là, on va avoir à partir de là une sorte de marche à l'abîme dont nous connaissons, à mon sens, la dernière étape. Cette marche à l'abîme, on peut la décrire en cinq phases. D'abord la rupture de 1914, que je viens de rappeler. Ensuite, après la guerre de 14, on a essayé de rétablir l'état noir. Il y avait encore la nostalgie de ce que pouvait être une monnaie or. Ça a été la conférence de Gênes en 1922. Mais là, une fois encore, on a ressorti l'argument qu'il n'y aurait pas assez d'or pour gager, pour faire la contrepartie de toutes ces monnaies qui avaient été fabriquées pendant la guerre. Argument fallacieux, il suffisait d'augmenter le prix de l'or, mais on n'a évidemment pas fait. Donc, on a rafistolé un système dans lequel les réserves des banques centrales étaient à la fois de l'or et les deux monnaies les plus importantes de l'époque, c'est-à-dire la livre sterling et le dollar, ce qu'on a appelé le gold exchange standard, c'est-à-dire un système où les deux monnaies les plus importantes pouvaient servir de gage aux autres banques centrales pour émettre de la monnaie. Il s'agissait encore une fois d'économiser l'usage de l'or et de faire en sorte que l'on puisse, toujours l'idée que l'on puisse, et là encore une fois que est née l'idée même de politique monétaire, l'idée qu'on pouvait soutenir la croissance, soutenir la demande en émettant de la monnaie. Et comme soi-disant il n'y avait pas assez d'or, on a additionné l'or et des réserves en dollars et en livres sterling. Pour les banques centrales, il faut voir que les banques centrales européennes, non anglaises et non américaines, il faut savoir que ces dollars ou ces livres sterling étaient évidemment replacés soit aux États-Unis, soit en Angleterre, en termes de placement, c'est-à-dire que par rapport à des actifs en or supposés stériles qui ne rapportaient pas d'intérêt, ces réserves étaient utilisées pour faire des prêts aux Anglais ou aux Américains. Et par conséquent, ce que Rueff a appelé, vous savez tous, ce déficit sans pleurs, c'est ce recyclage des réserves en dollars et en sterling a permis à ces pays qui disposaient de monnaie de réserve d'équilibrer artificiellement leur balance de paiement. La chose extraordinaire de cette affaire, pour dire un mot de la crise de 1929, c'est que du fait de la guerre, les trois quarts des réserves d'or se trouvaient aux États-Unis. Trois quarts des réserves des banques centrales se trouvaient aux États-Unis. Autrement dit, si les États-Unis avaient obéi aux règles de l'État noir, on peut dire qu'il n'y aurait pas eu de crise de 1929, parce qu'ils auraient émis suffisamment de monnaie pour éviter la dépression qui a suivi le krach de 1929. Autrement dit, le maintien des disciplines de l'État noir aurait permis à l'époque d'éviter la crise de 1929 qui a eu les conséquences que vous connaissez. La troisième étape dont j'ai dit la rupture de 14, la conférence de Gênes, la troisième étape de cette marche, c'est la dévaluation massive qu'a opérée Roosevelt en 1933. Roosevelt a dévalué une parité qui était établie depuis 1834. Donc, il a mis un terme à un siècle de stabilité monétaire pour retrouver cette parité de 35 dollars et une dévaluation de plus de 30%. Et en effet, les premiers succès du New Deal sont dus entièrement à cette dévaluation. Bon, il y a toute une mythologie du New Deal qui a été répandue par les Keynésiens, mais le redémarrage de l'économie américaine est dû entièrement à la dévaluation de Roosevelt. Ensuite, l'économie américaine a rechuté. Et il y a cet aveu du secrétaire d'État au Trésor de Morgenthau, Henri Morgenthau, qui est vraiment d'une actualité extrêmement troublante. Il écrit en 1939. Nous avons essayé de dépenser de l'argent. Nous dépensons plus que nous n'avons jamais dépensé. Et ça ne marche pas. C'est formidable. Hein. On se croit, c'est vraiment comme aujourd'hui. Nous dépensons plus que nous n'avons jamais dépensé et ça ne marche pas. Morgenthau. Nous n'avons jamais tenu nos promesses électorales, c'est-à-dire rétablir le plein emploi. Le taux de chômage a de nouveau augmenté en 37, 38, 39. Après 8 années au pouvoir, écrit en 39, 8 années au pouvoir, 31, 39, nous avons autant de chômeurs que lorsque nous avons commencé. Et une dette gigantesque en plus. C'est exactement la situation d'aujourd'hui. Donc, c'est fantastique parce que tout le discours des princes qui nous gouvernent, c'est de dire qu'on a fait mieux qu'en 29, n'est-ce pas ? On a évité les cascades, les faillites en chaîne, et on a fait de la nouvelle réglementation, on a fait marcher la planche à billets, on a fait revenir l'État, soi-disant parce que l'État avait été retiré de la marque de l'économie, ce qui est évidemment tout à fait faux. Mais le résultat est encore plus rapide qu'en 1929. Nous sommes aujourd'hui 4 ans après le début de la crise, et nous avons plus de chômage aux États-Unis, plus, exactement comme dit Morgenthau, après avoir dépensé des milliards pour sauver ces banques, ils auront plus de chômage, et nous avons une dette, des dettes évidemment immenses. Quatrième étape dans cette marche à la Bible, c'est les accords de Bretton Woods, qui sont beaucoup plus connus, qui datent de 1744. Les accords de Bretton Woods, c'est la conférence de Gênes. C'est pas la peine de rentrer dans de très grands détails. C'est la conférence de Gênes. Avec cette simplification, c'est que la livre sterling est out. C'est donc la seule devise de réserve, c'est le dollar. Et donc, le dollar est convertible en or, reste convertible en or, pas pour tout le monde, pas pour les citoyens américains. des convertibles en or pour des institutions internationales, pour les banques centrales. Et il reste ce dernier ancrage de l'or, du système monétaire international, de l'or via le dollar. Et tout ça va sauter le 15 août 1971. Le 15 août, comme vous le savez, est une fête mariale. C'est un paradoxe, c'est ce 15 août aussi, c'est aussi un 15 août. C'est aussi un 15 août 1795 que fut créé le franc français par les conventionnels, qui deviendra bientôt le franc germinal. Enfin, ce 15 août 1971, Nixon ferme la fenêtre d'or. J'ai vécu cette époque. J'en garde un souvenir assez extraordinaire parce que Nixon a fait ce communiqué. J'ai donné ordre au secrétaire au Trésor des États-Unis, Connally, s'appelait Connally, de suspendre temporairement la convertibilité de dollars en or. Et après, il avait dit qu'il avait fait le plus grand. C'était une décision qui resterait dans l'histoire. En effet, elle est restée dans l'histoire, mais pas au sens qu'espérait Nixon. Il y a eu un moment de stupeur absolue dans les chancelleries, dans les banques. Je me souviens, à l'époque, j'étais responsable de la rubrique financière au Monde. Et donc, le 15 août était un dimanche. Donc, le 16 août, j'étais au journal, et je me souviens très bien du noir absolu dans lequel se trouvaient les ministres, la Banque de France, les banques. Enfin, personne ne comprenait ce qui se passait. Personne n'était capable de dire quelle serait la valeur du dollar, qu'est-ce que ça signifiait. On rentrait dans un monde absolument inconnu, qui allait être le monde des changes. L'OTAN. Évidemment, le système ne pouvait évidemment qu'exploser, les taux de change sont partis dans tous les sens. Il y a eu, pour répondre à cette explosion, une sophistication incroyable des instruments financiers. Et nous vivons aujourd'hui la dernière étape, peut-être l'étape ultime de ces bouleversements. Alors, comment peut-on sortir de ce meltdown. Alors évidemment, dès qu'on parle d'or, dès qu'on évoque le problème de l'or dans les milieux académiques, on se fait immédiatement traiter d'archaïque, d'attardé, de pessimiste. Je me souviens, l'année dernière, à l'Institut Montaigne, il y avait une séance, il y avait 1000 personnes qui étaient là pour écouter Monsieur BBA, Monsieur le nouveau patron du monde, le nom m'échappe. Il y avait aussi Monsieur Guénaud. Il y avait, enfin donc, et j'ai eu le. Une fois que les questions étaient ouvertes, j'ai eu l'outrecuidance de rappeler tout de même que on pourrait peut-être remonter au 15 août 1971 pour commencer, pour essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passait dans les banques et sur les marchés. Et j'ai eu droit à cette réplique, mais l'or, je n'ai même pas osé parler de retour à l'état mort, d'ailleurs ce n'était pas mon propos. J'ai eu cette réplique, l'or, c'est le retour à la guerre. Ce qui est un contresens absolu, parce que c'est pas l'or qui a conduit à la guerre, c'est la guerre qui a rompu, qui a détruit l'état mort. Et donc, l'expérience du gold standard de l'état mort, qui n'est pas sans défaut, hein, c'est pas du tout d'ailleurs ce que je vais proposer, qui n'est pas sans défaut, tout au long du 19e siècle, une fois l'aventure napoléonienne terminée, est une période de prospérité et de paix relative. Donc c'est pas l'état noir qui a conduit la guerre de 14, c'est la bêtise ou la sottise humaine, tout ce que vous voulez, mais c'est ridicule de dire que l'état noir, c'est comparé avec le 20e siècle, qui est un siècle abominable de guerre monstrueuse, le TZLC paraît comme un havre de paix et de stabilité. Songez que le franc germinal, dont je rappelais tout à l'heure la naissance, n'a pas varié d'un milligramme de sa naissance à la guerre de 14. Alors que le franc, qui est né à ce moment-là, non convertible, de 14 à sa transformation en euros en 1999, a perdu 99% de sa valeur. Donc on voit qu'on n'est plus dans le même monde. De même, les taux de change entre les principales monnaies au XIXe siècle, entre le dollar, le Deutschmark, le mark, pardon, le dollar, la livre sterling, le franc, était de plus ou moins 1% au maximum, peut-être 1,5% pendant un siècle, alors qu'aujourd'hui, elles sont de plus ou moins 15 ou 20%. L'euro a commencé à 0,80 dollars, et est aujourd'hui à 1,30, il est monté jusqu'à 1,60. Ce sont des variations insupportables pour le développement des échanges. D'où, en effet, l'invention d'instruments pour pallier ces risques.
Il nous reste un quart d'heure.
Oui.
Donc, si on peut garder quand même quelques minutes pour des questions.
Oui. Je termine. Donc, il y a une espèce d'hystérie à chaque fois que l'on parle de l'or. Ce que je préconiserais, ce serait non pas un retour au gold standard, mais un régime décentralisé de création monétaire. Alors la première chose, c'est des mesures très simples qui sont à la portée de n'importe quel gouvernement et qui tiennent en quelques lignes. Première mesure à prendre, c'est d'abolir le cours légal de l'euro, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse choisir sa monnaie pour payer son boulanger ou pour être payé par son employeur. Il faut régler ses dettes, rétablir la concurrence entre les monnaies. Si la concurrence est bénéfique pour l'économie, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas pour les monnaies. Et d'ailleurs, je suis content que Pascal Salin, je crois, lors d'une référente conférence ici, a tenu à peu près le même propos. Mais sans soulever l'hypothèse d'une suspension du cours légal. Ce qui protège la monnaie officielle. C'est pas seulement le cours légal d'ailleurs, c'est aussi protéger fiscalement. L'abolition du cours légal n'aboutira à une véritable concurrence entre les monnaies que si elles sont placées fiscalement sur un pied d'égalité. Or, actuellement, l'or et l'euro, ou n'importe quelle monnaie, ne sont pas placés fiscalement sur un pied d'égalité, puisque l'or est l'objet d'une fiscalité, une sorte de taxe Tobin, puisqu'à chaque fois que vous faites une transaction, vous achetez de l'or, vous payez une taxe qui s'ajoute aux frais bancaires, aux frais d'orfèvre. Donc, on pourra, après avoir pris ces deux mesures, qui sont extrêmement simples, on pourra alors faire un pas de plus en rétablissant la liberté de frapper des monnaies dans les ateliers existants, c'est-à-dire que l'État ne doit plus avoir le monopole de la frappe monétaire. On pourra libeller des contrats en or, on pourra ouvrir des comptes bancaires en or. À ce stade, une monnaie or entrera en compétition avec les euros, dépourvus de cours légal. Et plus la Banque Centrale Européenne fabriquera des euros, comme elle le fait actuellement, à tire-larigot pour soutenir les banques, pour soutenir les obligations d'État, grecs, italiens, espagnols, plus elle le fera, plus la monnaie or sera recherchée par les particuliers, puisque l'euro sera concurrencé par une bonne monnaie. La bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie en situation de concurrence, s'il n'y a pas d'intervention de la monnaie, de l'État. Cette demande d'or sera tellement pressante qu'elle aboutira à une redistribution de cet or qui était confisqué, et l'or des particuliers qui était confisqué par les banques centrales, par la Banque de France en particulier. Cet or manié pourra circuler, non pas seulement physiquement évidemment, mais aussi sous forme de billets. On peut tout à fait imaginer des billets gagés sur l'or ou des comptes courants convertibles à 100% en or. Pour les petites transactions, le métal argent sera introduit et utilisé exactement de la même façon. Il ne faudra surtout pas rétablir une parité fixe entre l'or et l'argent qui a fait toutes les grandes difficultés du bimétallisme. Les banques centrales seront désormais dépourvues de ce pouvoir monétaire dont elles ont tant abusé. En fait, elles n'auront plus de raison d'être dans ce gold standard d'un nouveau genre, où la quantité de monnaie en circulation sera déterminée par le jeu du marché. Du même coup, les États ne pourront plus les utiliser pour financer leurs déficits et seront ainsi amenés à ne plus s'endetter, comme ils le font actuellement. Même introduite dans un seul pays, la nouvelle monnaie sera capable d'attirer à elle d'autres pays, d'autres citoyens d'autres pays. En fait, on répétera l'expérience qu'a connue Florence, Gênes, Venise au XIIIe siècle, qui en Europe ont été les premières villes à rétablir une monnaie or, qui était du même poids, sous des noms différents, dans ces trois cités, et qui ont en quelque sorte été une monnaie unique qui circulait librement d'une ville à l'autre. Autrement dit, petit à petit, on peut espérer recréer une monnaie universelle où d'autres Européens et même d'autres pays du monde pourront se rejoindre. Merci beaucoup pour votre attention.
Vous aurez 5 minutes pour quelques questions si vous voulez qu'on échange un petit peu.